Donc bonjour, je suis Frédéric Mondé et je vais vous parler des quatre libertés. Alors, la liberté, c'est un concept assez vaste et pourtant on connaît tous, on a tous un peu dans notre imaginaire un espace de liberté et on se dit voilà, pour moi la liberté, ça représente quelque chose de précis. On l'a avec trois mots en France, on a liberté, égalité, fraternité. Ça représente des choses intéressantes. Mais pourtant, chacun a sa propre idée de ce qu'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Pour parler de logiciel libre et pour parler des quatre libertés, moi j'utilise plutôt des exemples de voitures. Parce que on peut parler de logiciel, mais ça peut rester très très abstrait. On va parler de voiture, moi je vous parle de voiture parce que c'est un outil technologique, c'est un outil qui est compliqué, mais on a tous, on peut potentiellement tous avoir une voiture et la conduire. Il suffit d'avoir un permis de conduire quand même, un minimum, mais c'est quand même quelque chose d'assez simple. Il est possible...
Et sauver le capot pour voir comment fonctionne le moteur.
Alors, on peut faire les questions, mais juste après, on fait les questions après. Là, je vais juste vous parler de la première liberté. Donc, je vous ai dit, il y en a quatre. La première liberté, c'est celle d'utiliser votre voiture. Donc, vous avez une voiture, vous pouvez l'utiliser pour aller travailler. Vous pouvez l'utiliser pour partir en vacances, peut-être. Vous pouvez l'utiliser pour déménager, pour aider des amis à déménager. Vous pouvez aussi ne pas l'utiliser. C'est-à-dire la laisser au garage, prendre votre vélo, le métro, le train ou n'importe quoi d'autre. Et ça, c'est une liberté essentielle qui n'est pas dans les logiciels privateurs. Dans un logiciel privateur, exemple Microsoft Windows ou d'autres, au démarrage de l'ordinateur, il va y avoir des connexions de fait sur un site internet appartenant à Microsoft pour dire voilà la liste des programmes installés, voilà la liste divers éléments autres, votre identité, etc. Voilà des informations. Alors, c'est ça qui est déjà important. On voit la différence entre la voiture que j'ai chez moi, qui m'appartient, et la voiture de société avec laquelle je ne peux pas faire tout un tas de choses. Deuxième exemple, on peut utiliser la voiture, ok, mais on peut aussi étudier la voiture. C'est-à-dire que une voiture comme celle-ci, une 4L, le chevaux, je peux l'ouvrir, ouvrir le moteur, modifier des choses dans le moteur, modifier la forme, la couleur. Là, elle est préparée pour faire un rallye. Je peux le faire sans problème. Pareil pour un logiciel libre. Pourquoi ? Parce que j'ai le plan, la façon de faire, le plan de montage, le code source. Pour une voiture, ça va être le plan de montage, ça va être tout un tas de littérature autour de la voiture. Donc là, si j'ai envie de changer de carburateur et de mettre un ensemble 4x4 pour pouvoir rouler dans le désert, je peux. Il y a une chose aussi au niveau du logiciel, ce qu'il est possible de faire, qui est beaucoup plus compliqué au niveau matériel, c'est de faire une copie. C'est-à-dire que mon logiciel, je l'ai téléchargé, il est à moi, je peux, en cliquant sur deux boutons, faire une copie. Bon, en cliquant sur un bouton, je peux en faire une copie. Je peux, difficilement dans la réalité, mais c'est possible si j'ai beaucoup d'argent, faire des copies de voitures et les redistribuer à l'identique. En les donnant, en les fabriquant, ça va me coûter beaucoup d'argent. Il va falloir que je fabrique une usine, que je fabrique tout un tas de choses, mais c'est possible. Avec un logiciel, c'est bien, bien mieux. J'ai mon logiciel, je clique sur un bouton et il y a une copie. Je peux aussi, si je veux, copier le logiciel tel qu'il a été fait d'origine, mais avec les modifications. C'est-à-dire que j'ai mon logiciel, ma voiture, on a bien vu que j'ai changé les roues, j'ai changé plein de choses, je peux le laisser exactement comme ça et le redonner ou le revendre. c'est valable pour l'autre. Hein. Je peux ici distribuer ou vendre. Enfin, je peux distribuer, donc le vendre ou le donner, hein, c'est pas un problème. Toutes les versions existent. Alors, ces quatre libertés-là font en sorte que le logiciel libre est libre. S'il n'y a pas ces quatre libertés, on ne peut pas dire que le logiciel est libre. Voilà. Et c'est deux dernières libertés-là qui font qu'il y a une différence entre ce qu'on a l'habitude de voir dans un magasin, où je vais avoir un produit cher, un haut de gamme, qui va avoir plein d'options, et une version pas chère, où il y aura pas, exemple, si j'ai une chaîne IFI, je ne pourrai que écouter la radio dessus, puis avec la haut de gamme, je pourrai écouter la radio HD ou faire, je ne sais pas. Là, ce n'est pas du tout le cas. Le prix ne rentre pas en compte avec la qualité du produit, mais la qualité de la technologie. Je peux très bien avoir un logiciel très performant et gratuit. On l'a avec Ubuntu, on l'a avec d'autres logiciels utilisés par la NASA ou par l'industrie automobile ou par n'importe qui sont très performants et pourtant qui sont gratuits parce qu'ils sont libres. Le prix n'a rien à voir dedans. Est-ce que vous avez des questions? On peut aborder les questions à partir de maintenant.
Vous avez abordé juste après quand on pouvait soulever le capot pour essayer de comprendre comment marche le moteur.
Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est l'étude du code source. Soulever le capot et regarder comment ça fait, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et surtout, pouvoir le modifier ou, si je ne suis pas mécano, pouvoir demander à quelqu'un d'intervenir pour modifier le moteur ou repeindre la voiture ou changer l'autoradio. Non, je peux le faire. Aujourd'hui, sur les voitures actuelles, à part changer les pneus, il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Si je n'ai pas l'ordinateur de bord de la marque, j'ai accès à presque rien.
Non, quand vous dites de la marque, là, petite rectification. Oui. Moi, j'ai une Tata, une voiture indienne, que j'ai achetée à côté de Grenache chez un concessionnaire dont l'activité principale est la maintenance des camions suédois, Groupe Saab,
oui.
Enfin, vous voyez qui je veux dire, les canons réputés les meilleurs au monde. Mmh. Toujours est-il que quand ils ont fait la révision de ma voiture, je leur ai signalé une petite anomalie. Ils ont branché dessus l'ordinateur que j'ai vu allumer avec le nom de la Suédoise. Mmh. Donc en clair, il semble que les valises pour le diagnostic des voitures soient compatibles au moins entre certaines marques.
Alors, forcément, s'il y a exemple Peugeot, Citroën, c'est le même groupe, etc., il y a forcément des accords qui ont lieu.
Non, mais là, après, c'est pas quand Tata et le groupe Saab, je pense que quelqu'un a en tête le nom de la marque de camion. C'est pas Volvo, c'est l'autre.
Pas de camion.
Comment?
Non, mais c'est pas grave. Camion.
Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'accord typique entre Tata et ce constructeur suédois.
Alors, ce que je veux dire par là, c'est que une personne, moi je ne suis pas concessionnaire, moi je ne suis pas éditeur de logiciel, j'ai aucun accord avec personne.
Moi en tant qu'individu, au niveau des véhicules,
c'est la même chose. Moi si j'ai pas de valise, même avec le plan, si j'ai pas cette partie de brique logiciel privateur, je ne peux pas utiliser et régler une voiture si j'ai pas l'ordinateur de bord, si j'ai pas la valise,
même pas.
Si j'ai pas le.
Ça suffira même pas. Vous avez une autre anecdote. Avant, j'avais une Laguna achetée à Copenhague. Pendant la garantie, ils m'ont changé 3 fois la batterie à titre de la garantie. Donc, le concessionnaire de Malaga, il m'a dit, quand vous roulez pas beaucoup, pour que la batterie se charge mieux, je vais vous éteindre le daylight, c'est-à-dire quand vous mettez le contact, les codes s'allument en Scandinavie. Il enlève le cendrier, il branche son ordinateur et je vois effectivement sur l'écran lose the DRC. Il clique sur No, il dit c'est bon. Je repars, je bouffe au restaurant avec ma femme, j'allume les codes, plus de lumière. Je suis revenu avec les warnings et en mettant les codes qui ne s'allumaient pas, je pouvais mettre les antibrouillards. je reviens à Byzance et Brouillard, et les warnings. Et
le lundi, j'y suis retourné. Tout ce que vous me dites là.
Il a téléphoné à Madrid.
Tout ce que vous me dites là.
Il est en pas du tout dans la Laguna, entre 8 et 12. Et il ne sait surtout pas où ils sont. Il m'a dit ça ne suffisait pas. Il y avait un strap à déplacer sur l'ordinateur. Mais ils ne savent pas Madrid.
Là, on sort du sujet. On sort vraiment du sujet de la conférence.
Pour vous dire.
Même non, sur le sujet de la conférence, je vous parle juste de logiciel valise,
mais il ne sait pas où sont les ordinateurs.
Faut m'écouter un petit, au minimum, là on sort complètement du sujet. Je vous explique un concept, c'est la voiture aujourd'hui que je peux trafiquer parce qu'elle est libre, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'ordinateur, et les voitures d'aujourd'hui où il y a des ordinateurs et des bis-bis entre fabricants. Ce n'est pas des personnes dans la rue que vous avez croisées et qui s'y connaissent en mécanique. C'est des personnes qui sont... qui ont une brique logicielle, qui ont un ordinateur privatif avec des choses qu'on ne sait pas, une boîte noire qu'on branche sur la voiture et qui, entre grosses marques de voitures, font des histoires de « toi, tu peux être compatible avec moi », etc. Ce n'est pas, une histoire d'ouverture ou d'interopérabilité, c'est une histoire de compatibilité, c'est-à-dire tu me donnes de l'argent et tu peux brancher ton ordinateur sur ma voiture. Voilà. Et donc, c'est effectivement aussi... ça parle aussi de logiciel libre, entre guillemets, parce que effectivement là, si j'ai une brique, une boîte noire qui vient dans le système bloquer tout un tas de choses, effectivement, moi en tant que simple utilisateur ou une personne qui s'y connaît un petit peu en mécanique et qui peut très bien facilement changer les bougies et tout, je ne peux plus m'en sortir parce que je n'ai pas cette boîte noire. Voilà, c'est ça le problème. Et il existe dans l'automobile, il existe dans l'informatique. Il faut vraiment avoir un code... qui respecte, enfin une licence qui respecte ces quatre libertés, un logiciel qui respecte ces quatre libertés pour être un logiciel libre.
S'il vous plaît.
Oui.
Donc on parle de logiciel libre. Moi je suis d'accord avec les logiciels libres. Mais si maintenant Windows ou Mac faisaient ce genre de logiciel, ils seraient plus gagnants à la fin parce que ça se vendrait au rabais, tout le monde pourrait utiliser ces logiciels, il n'y aura plus autant de sécurité. Comme ce qu'il y a dans Windows ou Mac, donc tout le monde pourrait accéder à ces...
Alors justement, dans Windows et dans Mac, le fait de gagner ou pas de l'argent en faisant des copies, aujourd'hui on peut le dire, on le sait tous, gagner de l'argent en raréfiant un produit qui est aujourd'hui... Faire une copie d'un format numérique, c'est-à-dire faire une copie de 0 et 1, il suffit d'un clic de souris, ou d'un entrée sur un clavier, avoir un business, faire une entreprise en se disant voilà, je vais vendre une copie numérique, c'est exactement ce qu'il y a dans Windows, ou ce qu'il y a dans l'industrie de la musique, etc. C'est vendre une copie d'un logiciel qui peut être copié en un clic de souris, on peut copier 1000. Ce business model n'est pas viable aujourd'hui, pas en 2013. C'était valable au début, c'est plus valable aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Donc, aujourd'hui, il y a des sociétés, donc on parle de gagner de l'argent, il y a des sociétés qui gagnent de l'argent en donnant des logiciels. C'est le cas de Canonical, la société qui fait Ubuntu. C'est le cas de IBM. IBM fabrique énormément de choses pour le noyau Linux et pourtant, ils ne vendent pas ce truc-là, ils vendent des serveurs. Il y a énormément de choses. Tous les fabricants de matériel informatique, en tous les cas, presque tous, hein, les gros en tous les cas, donne de l'argent à la fondation Linux pour justement que Linux soit, qui est un logiciel qu'on peut avoir gratuit, hein, que ce soit Linux, GNU Linux, etc. C'est un logiciel qui respecte 4 libertés et qui peut être gratuit. Et ces personnes-là gagnent beaucoup d'argent en donnant des logiciels. Donc il y a un business model et il est possible de gagner de l'argent en donnant. Maintenant, effectivement, on va aussi parler du troisième point dont vous m'avez parlé, de la sécurité. Aujourd'hui, Windows n'est pas sécurisé du tout. La première chose qu'on vend avec Windows, c'est un antivirus. On vous vend un ordinateur, avant de vous vendre une pochette ou une garantie, etc., on essaie de vous placer l'antivirus. Et on vous dit, prenez l'antivirus. Vous achetez ma voiture, monsieur, prenez une assurance vie, attention. Prenez l'assurance vie parce que vous allez cartonner, parce que les freins, on ne sait pas si ça fonctionne ou pas. Peut-être, on ne sait pas ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. D'accord ? Donc, aujourd'hui, les produits Macintosh, ce qui n'était pas le cas avant, Macintosh c'était assez fiable. Aujourd'hui, Macintosh, on appelle Macintosh ou Microsoft, c'est des produits avec des failles. Et des grandes failles. La preuve, il y a même des gens qui fabriquent des antivirus. Pas que des petits. En plus, on peut en avoir toute une collection d'antivirus pour ces. Donc, non, ce n'est pas sécurisé. c'est pas sécurisé parce qu'à l'intérieur du Microsoft Windows, il y a des portes dérobées. C'est des portes, des portes techniques hein, pour que Microsoft puisse peut-être faire. Ça peut-être, hein, au début, ça, c'était peut-être louable. Hein, c'est comme si vous aviez un appartement et votre proprio, il a les clés pour au cas où il y a une inondation, etc. Ça peut être louable. Sauf que cette clé-là, on ne sait pas qui a la clé. On ne sait pas qui peut rentrer. Et s'il y a une clé, pourquoi il n'y en aurait pas 10 différentes ? Ou une copie tout simplement de la première clé. Donc ce ne sont pas du tout des logiciels sécurisés. La seule façon de sécuriser un logiciel, c'est que tu me montres une page blanche. C'est-à-dire que moi j'ai le code source et que je puisse voir ligne par ligne, caractère par caractère, ce qu'il y a dans le programme. Et en faisant ça, eh bien, je sais si oui ou non je peux rentrer ou pas.
Ça, c'est pas tout le monde qui peut comprendre ça, les codes sources.
Effectivement.
C'est pas tout le monde qui peut utiliser ça à bon escient.
Tout le monde ne peut pas l'utiliser, effectivement. Mais tout le monde n'est pas garagiste non plus.
Oui.
Voilà. Si je ne sais pas réparer ma voiture, je fais appel à un ami garagiste ou je paye un garagiste en qui j'ai confiance. Là, quand une entreprise branche la boîte noire dans la voiture, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, je ne sais pas s'ils vont bidouiller. Peut-être qu'ils vont réparer un d'un côté et recréer une panne, comme on l'avait l'exemple tout à l'heure. Avec un ordinateur, une boîte noire, on réussit à réparer d'un côté, mais on casse peut-être de l'autre. On ne sait pas ce qu'il fait. On ne sait pas. Si chacun travaille dans son coin sans montrer ce qu'on est en train de faire aux voisins, ça donne un truc compliqué. C'est comme si pour fabriquer un bâtiment, il y avait un architecte par étage. À la fin, je ne sais pas si le bâtiment tiendrait vraiment debout. Voilà. Vous avez d'autres questions peut-être ? Vous pouvez me joindre, quoi qu'il arrive, par mail ou à la fin de la conférence, on peut discuter si vous voulez. Voilà.